VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité en ce mercredi 29 juillet 2015. Pour vous accompagner ce matin, Jacques Aristide et Anne Albertson. Le fil conducteur, l'armée nigériane annonce avoir libéré 30 otages de Boko Haram.
Au Burkina Faso, demande d'annulation de la mise en accusation de l'ex-président Compaoré pour haute trahison.
Au Sénégal, dernier jour de la conférence de Dakar sur l'islam et la paix.
Des extrémistes de tous bords s'acharnent à prendre la religion en otage. D'autres s'entêtent dans une islamophobie tout aussi répugnante.
À l'international, l'OTAN assure son allié turc de sa forte solidarité face au terrorisme et contre le groupe État islamique.
Dans la partie magazine, bilan du périple africain du président américain Barack Obama.
Le premier chapitre de ce discours, c'est le respect des constitutions africaines. L'autre dossier qui a fait les controverses, c'est l'homosexualité.
Non, pas du tout. L'homosexualité, c'était vraiment en passant. Le président Obama est un homme élégant, donc ne perd pas trop de temps.
Au programme également, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et les sports.
L'armée nigériane affirme avoir libéré 30 otages de Boko Haram au cours d'une opération militaire contre le groupe islamiste à Dikwa, dans le nord-est. L'AFP, qui rapporte l'information, cite un communiqué signé par Sani Ousmane, porte-parole de l'armée de terre. Parmi les otages secourus se trouvaient 21 enfants, dont un nouveau-né de 6 jours et 7 femmes. La ville de Dikwa, à quelques 90 km à l'est de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, avait été capturée par Boko Haram, puis libérée par l'armée tchadienne lors d'une bataille importante en avril. Retombée par la suite sous contrôle islamiste, elle a été à nouveau libérée par l'armée nigériane la semaine dernière.
Au Burkina Faso, 9 députés proches de l'ex-président Blaise Compaoré ont saisi le Conseil constitutionnel pour annuler la mise en accusation de l'ex-dirigeant pour haute trahison et attentat à la Constitution. Les parlementaires dénoncent une chasse sorcière, rapporte l'AFP. Les députés du Parlement intérimaire, vous le savez, ont voté le 16 juillet la mise en accusation de M. Compaoré devant la Haute Cour de justice. Le parti pro-Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a également introduit un recours contre les mises en accusation par le CNT, le Conseil national de transition des membres de l'ancien gouvernement pour coups et blessures volontaires et assassinat.
Au Sénégal, le président Macky Sall a dénoncé hier à Dakar les extrémistes qui s'acharnent à prendre le monde en otage. C'était dans le cadre d'une conférence internationale sur le thème « Islam et paix ». Claire Morin-Gibourg.
C'est d'un ton dramatique que Macky Sall a ouvert la conférence.
Alors que nous tenons ces assises, le fracas d'une violence meurtrière continue de résonner à travers le monde, semant la mort et la désolation. Par des actes insensés, des extrémistes de tous bords s'acharnent à prendre la religion en otage. D'autres s'entêtent dans une islamophobie tout aussi répugnante qui nourrit la peur et la haine du musulman.
L'islam que nous voulons, c'est un islam de paix et de tolérance, a renchéri le président sénégalais. Le Sénégal, pays à 95% musulman, a jusqu'à présent été épargné par les violences des groupes islamistes radicaux qui touchent les pays voisins. Le chef de l'État sénégalais s'exprimait à l'ouverture d'une conférence de 2 jours, organisée par l'association islamique Jamiyatou Ansaroudine, fondée dans les années 40 au Sénégal et qui s'est développée dans plusieurs pays, notamment au Nigeria. Pour lutter contre l'extrémisme, Macky Sall a insisté sur l'importance de, je le cite, « construire une paix sociale en corrigeant les inégalités qui nourrissent le sentiment d'exclusion ».
Un policier égyptien chargé de la sécurité de l'ambassade du Niger au Caire a été tué par balle dans la nuit de mardi. Un deuxième policier a été blessé par les deux assaillants armés qui ont pris la fuite à bord d'une moto, selon l'AFP. Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013 et le début de la répression contre ses partisans, des groupes djihadistes ont multiplié les attentats visant les forces de sécurité.
En Tanzanie, l'ancien Premier ministre Edward Lowassa a fait défection du parti au pouvoir qu'il accuse de dictature à l'approche de l'élection présidentielle. Les détails avec Eddie Isango.
« Je ne suis plus l'un de leurs », a déclaré Edward Lowassa. Il a claqué la porte de Chamacha Mapinduzi à 3 jours de la fin de l'enregistrement des électeurs pour l'élection présidentielle couplée aux législatives et communales devant se tenir le 25 octobre. L'ancien Premier ministre avait au cours du mois de juillet tenté sans succès de décrocher l'investiture de Chamacha Mapinduzi pour la présidentielle. Il accuse désormais les dirigeants du parti d'être devenus des non-démocrates, des oppresseurs et de se livrer à la chasse aux sorcières. Âgé de 61 ans, M. Lowassa avait été inculpé dans un scandale de corruption qui lui a valu de démissionner de son poste de Premier ministre en 2008. Il est désormais membre de Chedima, une formation de l'opposition. Les partis qu'il quitte dominent la vie politique en Tanzanie depuis 40 ans, alors que le pays est gangréné par la corruption.
Le journaliste gambien Alagiye Sisseï, qui avait été détenu au secret une dizaine de jours, est porté disparu depuis le 17 juillet, soit 4 jours après sa libération, selon sa famille, un syndicat de la presse locale et les États-Unis. Hier, ils se sont dit inquiets pour sa vie et ont réclamé sa libération immédiate. Alagiye Sisseï, directeur de la radio privée gambienne Teranga FM.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OTAN, réunie en urgence à Bruxelles à la demande d'Ankara, a assuré son allié turc de sa forte solidarité face au terrorisme, contre le groupe État islamique avant tout et contre les rebelles kurdes. Le Parlement turc se réunit en session extraordinaire ce mercredi après-midi pour évoquer la situation sécuritaire du pays, selon l'AFP. Tous les alliés ont assuré la Turquie de leur solidarité et de leur ferme soutien, a déclaré hier le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, à l'issue de la réunion des ambassadeurs des 28 pays membres de l'OTAN.
Une nouvelle trêve humanitaire, la troisième depuis le début de la guerre au Yémen, il y a 4 mois, a volé en éclats avec la reprise hier des raids aériens de la coalition arabe et des combats dans le sud du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU tenait dans la soirée des consultations sur le Yémen, alors que les efforts pour une solution négociée du conflit n'ont toujours pas porté leurs fruits. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a appelé devant le Conseil à redoubler d'efforts pour rétablir la trêve afin de secourir tous ceux qui en ont besoin, dit-il.
Un espion israélien emprisonné aux États-Unis depuis 30 ans sera bientôt libre. Jonathan Pollard sera relâché au mois de novembre, ont annoncé ses avocats. Chez Rubin Dorsil.
Jonathan Pollard, un juif américain, fut pendant un temps analyste civil du renseignement pour la marine de guerre américaine, la US Navy. Mais un jour de novembre 1985, il est arrêté alors qu'il tente de se réfugier à l'ambassade d'Israël à Washington. Jugé et condamné d'avoir transféré des secrets militaires à l'État hébreu, il sera envoyé en prison à perpétuité. On n'a jamais vraiment su l'ampleur des activités d'espionnage de Pollard, mais un rapport de la CIA de 1987, déclassifié en 2012, précise qu'il avait livré des informations sur les pays arabes et l'Union soviétique. 30 ans durant, Washington a refusé de le libérer, et ce, en dépit des pressions du gouvernement israélien, qui s'est excusé en 1987, a accordé la citoyenneté israélienne à Pollard en 1995 et admis 3 ans plus tard qu'il avait émargé de son budget. Sa libération prévue le 21 novembre prochain est interprétée par certains observateurs américains comme un geste conciliant envers un allié qui ne décolère pas contre la signature de l'accord nucléaire du 14 juillet avec l'Iran. Mais ses avocats et le secrétaire d'État John Kerry démentent qu'il y ait un lien quelconque entre les deux événements. Selon les termes de sa libération, Jonathan Pollard devrait rester aux États-Unis pendant 5 ans, mais ses avocats disent qu'ils ont requis du président Barack Obama la permission pour leurs clients d'émigrer en Israël.
Un Américain fait scandale pour avoir tué le lion préféré des touristes au Zimbabwe. Il s'agit de Cecil, un lion de 13 ans, vedette du plus grand parc zimbabwéen et célèbre pour sa crinière noire. L'implication du riche dentiste américain a été confirmée par l'Association des opérateurs de safari du pays, hier à Harare, d'après l'AFP. Ni le parc de Hwange, ni la police ne pouvaient confirmer si cet Américain, Walter James Palmer, était encore sur le sol zimbabwéen hier soir, ni s'il serait jugé, alors que deux complices doivent comparaître ce mercredi pour braconnage. L'affaire a du coup déclenché une nouvelle polémique sur les pratiques des amateurs de grande chasse en Afrique.
Place à présent à la Minute Éco, ce sont les dernières nouvelles économiques en Afrique. À la présentation ce matin, Camille Gros-Didier.
Douala abrite depuis lundi un congrès sur l'eau potable. Cette rencontre d'experts africains et internationaux s'effectue sous l'égide du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau. Les participants doivent réfléchir toute cette semaine aux moyens d'améliorer la qualité de l'eau à distribuer pour offrir au plus grand nombre en Afrique un service public d'eau potable à côté de réseaux d'assainissement performants. Nouakchott, en Mauritanie, a accueilli lundi un sommet de la Grande Muraille Verte, une initiative pour freiner l'avancée du désert. Cette muraille, une fois réalisée, partira du Sénégal pour rejoindre Djibouti et sera longue de quelques 7000 km et large de 15 km. Et au titre de la lutte contre la corruption, la Commission provinciale de lutte contre la fraude minière a intercepté un colis de 5,5 kilos d'or à Bukavu, au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Radio Okapi, qui cite le coordonnateur de la cellule technique chargée des opérations au sein de la commission, la valeur du colis est estimée à plus de 250 000 dollars. Abbas Kayonga aurait ajouté que cet or en provenance de Shabunda a été saisi à Bukavu.
Et maintenant, un survol de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Élection du nouveau président de la FIFA, Platini devrait annoncer sa candidature cette semaine.
Oui, le dénouement est proche Jacques, puisque le patron de l'UEFA devrait indiquer d'ici la fin de la semaine son intention d'être candidat à la tête de la FIFA. Pour briguer la succession du président démissionnaire Sepp Blatter, la FIFA, c'est cette organisation embourbée dans un énorme scandale de corruption. Les choses se sont nettement accélérées depuis l'annonce par Sepp Blatter de la date de l'élection. Ce sera le 26 février 2016. Le Suisse avait même eu cette petite phrase lourde de sens durant sa conférence de presse ce jour-là, souhaitant bonne chance à tous les candidats, y compris Michel Platini.
Du nouveau au chapitre des transferts.
Le Bayern de Munich, champion d'Allemagne, officialise l'arrivée du Chilien Arturo Vidal en provenance de la Juventus de Turin pour un contrat de 4 ans. Le document est assorti d'une année supplémentaire en option, a précisé le Bayern lors de la conférence de presse de présentation du joueur. Montant du transfert, selon la presse allemande, 35 millions d'euros. Et puis le latéral brésilien de Chelsea, Felipe Luis, a été revendu à l'Atlético Madrid un an après son arrivée à Londres. C'est ce qu'a annoncé le club champion d'Angleterre. Le défenseur de 29 ans a acheté une vingtaine de millions d'euros au Colchoneros en 2014, n'avait disputé que 26 matchs avec les Blues.
Copa Libertadores, première manche de la finale la nuit prochaine.
Les Tigres de Monterrey jouent à domicile le match aller de la finale face aux Argentins de River Plate. Dès lundi, les 42 000 billets avaient été vendus pour assister à cette rencontre entre deux équipes offensives au stade Universitario, surnommé le Volcan. Ça ne s'invente pas, Jacques.
Et puis les Mexicains ont le sang chaud.
Le sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique, Miguel Herrera, a été démis de ses fonctions après avoir agressé un journaliste de télévision. C'est ce qu'a annoncé le président du championnat et futur président de la Fédération mexicaine de football, Décio de Marea. Herrera, connu pour avoir le sang chaud, a frappé Christian Martinoli, populaire commentateur de la chaîne télévisée TV Azteca. C'était ce lundi à l'aéroport de Philadelphie, selon plusieurs témoins, et ce peu après la victoire du Mexique en finale de la Gold Cup contre la Jamaïque 3-1. Décio de Marea n'a donné aucune indication sur la succession de ce sélectionneur qui était en poste depuis octobre 2013.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes toujours branché sur la VOA, émetteur de Washington. Jacques Aristide dans votre compagnie. Il est l'heure maintenant d'aborder la tranche magazine du Monde aujourd'hui. Et nous ouvrons avec la tournée africaine du président américain. Eh bien, Barack Obama a conclu hier ce périple au Kenya et en Éthiopie par un discours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Dans le cadre de notre émission interactive d'hier, Idrissa Seydoudia a demandé au journaliste René Lake, patron de CNEPLUS.com, et au politologue africain Nema François Chérif à Washington, ce qu'ils avaient retenu non seulement de ce discours, mais aussi de manière générale de ce dernier déplacement en date sur le continent africain du locataire de la Maison-Blanche. D'abord, Nema François Chérif.
Le premier chapitre de ce discours, c'est notamment le respect des constitutions africaines. Je crois que c'est le plus important, puisque tous les autres sont des corollaires. Et si nous respectons nos propres lois, nos propres constitutions, que nous édifions à l'image de nos réalités, je ne crois pas qu'un chef, un seul individu, peut avoir le courage de changer à son image. L'autre chapitre, c'est l'autonomisation de la femme et le respect des enfants. Vous savez, en Afrique, le fardeau économique pèse assez lourd sur la femme. Mais malheureusement, cette même femme n'a pas accès aux mêmes droits et privilèges que les hommes dans cette société même. Et aussi le retard sur les infrastructures dont il fait appel aux entreprises, la promotion du secteur privé, des entreprises privées, pour s'intéresser à ce dossier, notamment le soutien à ces jeunes entrepreneurs qui pourraient faire la différence et amorcer un nouveau pas vers le développement. Mais aussi, l'autre dossier qui a fait les controverses, c'est l'homosexualité. C'est vrai, nous sommes dans une période de globalisation, mais nous ne sommes pas quand même au niveau de la démocratisation des cultures et des coutumes.
Le politologue africain Nema François Chérif à Washington. En effet, nombre d'auditeurs, dans leur réaction sur Facebook, semblent dire que M. Obama a cherché à imposer l'homosexualité aux Africains. Pas du tout, rétorque le journaliste René Lake.
Non, pas du tout. L'homosexualité, c'était vraiment en passant. Et tout le monde sait que le président Obama est un homme élégant, donc ne perd pas trop de temps dans ce qu'un de vos auditeurs appelait les sujets qui fâchent ou sur lesquels, au fond, il sait qu'il n'a pas une prise essentielle. Aujourd'hui, l'Amérique n'a pas de prise sur ce débat-là en Afrique. Je pense que l'Amérique en est consciente et donc ne passe pas beaucoup de temps. Je pense que les questions centrales, c'était la problématique du terrorisme, le problème de la corruption, la problématique du troisième mandat en Afrique, donc la question du respect des constitutions, ça ce sont des questions centrales, des questions de développement, et les peuples africains, ce sont ces questions-là qu'elles se posent. Les questions de leur sécurité, la question de l'équité et de la croissance économique qui ne peut pas se faire sans une lutte contre la corruption, la question du respect constitutionnel, donc la problématique des trois mandats, la problématique des investissements en Afrique, il en a longuement parlé, la question des femmes qui est une question centrale également à toute problématique de développement. Donc voilà les grandes questions sur lesquelles le président Obama s'est penché.
Certains Africains estiment aussi, quand il s'agit de la limitation du nombre de mandats présidentiels, que l'Occident cherche à leur imposer des valeurs non africaines. La réponse de René Lake.
Bien sûr que non. Les Africains, les peuples africains, que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes, dans tous les pays d'Afrique, souhaitent et appellent à des mesures qui permettent une meilleure gouvernance dans ces pays. Pour les gens qui vous disent « oui, écoutez, ça c'est des problématiques d'étrangers », c'est parce qu'eux-mêmes sont soit des prédateurs ou soit des principaux bénéficiaires des systèmes qui sont mis en place. Mais je peux vous garantir que dans n'importe quel pays africain, et moi je seul sais que l'Afrique, c'est la voyage de Londres en large, et je peux vous dire que dans tous les pays africains, les peuples aspirent à la même chose que dans tous les autres pays du monde. Ils aspirent à une vie dans des meilleures conditions d'un point de vue économique, d'un point de vue de leur santé, d'un point de vue de leur liberté d'expression. Et leurs besoins sont les mêmes. Donc franchement, c'est un problème central. Et je pense qu'il y a quand même des pays africains qui ont donné l'exemple. Des peuples africains, regardez ce qui s'est passé au Sénégal avec le président Blaye Wade qui a cherché à faire un troisième mandat. C'est la société civile, c'est le peuple sénégalais qui s'y est opposé. Il a essayé de le faire, il est arrivé à le faire un peu par la force et il a été battu très sévèrement au niveau des élections. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Blaise Compaoré qui a cherché à à faire un passage en force. Et il y a maintenant des exemples positifs. Hein. On a parlé de l'Afrique du Sud avec Mandela. On a parlé également de la Tanzanie, où le président Obama était allé il y a 2-3 ans également, où je crois que les trois présidents sont partis volontairement et le quatrième s'apprête à partir là au mois d'octobre. Ça fait partie des besoins et des revendications des peuples africains.
Le journaliste africain et PDG de CNEPlus.com, René Lake, joint à Washington.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au voyage de Barack Obama au Kenya et en Éthiopie. Le président américain a mis l'accent sur l'économie et la lutte contre le terrorisme. Qu'avez-vous pensé de ce voyage de Barack Obama? Venez en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum, 19h temps universel sur VOA Afrique.
Le président nigérian Muhammadu Buhari effectue ce mercredi une visite au Cameroun pour des entretiens avec son homologue Paul Biya sur les moyens d'éliminer Boko Haram, le groupe islamiste qui se livre à des attaques dans l'ensemble du bassin du lac Tchad. Monsieur Buhari s'est déjà rendu au Tchad et au Niger, mais son séjour au Cameroun revêt un caractère particulier compte tenu de la méfiance qui a jusqu'ici prévalu entre Abuja et Yaoundé. Méfiance qui remonte aux différents territoriales de la péninsule de Bagassi, tranchée en 2002 par la Cour internationale de justice en faveur du Cameroun. Pour un éclairage, Timothée de Nangmaï a joint à Québec au Canada le journaliste camerounais Jean-Marc Sobot.
On imagine que les deux pays vont s'accorder sur la guerre contre Boko Haram. Ça a été souhaité depuis par les experts entre les deux pays, ces deux pays qui s'esquivaient. Avant la dernière visite, d'ailleurs, du président Muhammadu Buhari aux États-Unis, il avait écrit. Il avait fait une tribune dans le New York Times, je crois, où il citait les pays avec lesquels le Nigeria entendait travailler contre Boko Haram. Et là-dedans, il n'a pas cité le Cameroun. Et ça n'a échappé à personne.
Les efforts conjugués du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun ont permis de briser l'élan de Boko Haram sans pour autant éliminer ce groupe.
Une force multinationale qui a été créée et devait mobiliser environ 10 000 personnes. Mais je veux dire que dans les faits, cette force n'est pas encore opérationnelle. On a vu l'armée tchadienne s'impliquer au Cameroun avec un certain succès et s'impliquer également au Nigeria, au nord-est du Nigeria. C'est l'armée tchadienne qui est entrée dans les deux pays et ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que l'armée tchadienne a appuyé le Nigeria et puis a essayé d'appuyer également d'une certaine manière le Niger. Jusqu'à présent, c'était pas quelque chose d'organisé, c'était pas quelque chose de concerté. Tout ce qui était concerté est resté assez théorique, comme la fameuse force multinationale mixte. Ça va se jouer au bilatéral, c'est-à-dire que le Cameroun va traiter avec le Nigeria, va traiter avec le Tchad. Je pense que, d'une certaine manière, tous ces pays se méfient de l'implication de pays comme la France, il faut le dire, qui existe déjà avec l'opération Barkhane qui est basée à N'Djamena. Donc, il y a une certaine méfiance et ils préfèrent traiter, n'est-ce pas, de pays en pays. Ce qui restait effectivement dans ces négociations, c'était que les Nigériens entre finalement en contact avec les Camerounais parce qu'il y avait une très très grande méfiance jusqu'à présent entre ces deux pays.
Le journaliste Jean-Marc Sobot était en ligne depuis Québec.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Mali, le mariage peut être une sentence de mort pour de nombreuses jeunes filles. C'est l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui l'a écrit dans un rapport en 2009. Malgré les sévices et les privations que subissent les filles mineures obligées de se marier à un âge précoce, la pratique continue d'être très répandue. Depuis Bamako, le reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Dans cette région, le mariage forcé ou obligatoire est devenu une tradition. C'est pourquoi des jeunes filles de 11 ans sont données en mariage et tombent enceintes, comme la petite Binta, âgée de 11 ans. Djawara Danjo Sidibé, sage-femme.
Arrivée ici, nous on a constaté déjà que l'utérus voulait s'ouvrir. Nous on a fait immédiatement la césarienne. L'enfant est né vivant mais mort-né apparent. quelques minutes après l'enfant est décédé. Et puis les suites de post-opératoire se sont compliquées à des suppurations parce qu'elle avait déjà fait des complications avant d'arriver chez nous ici.
Elle devient ainsi l'une des victimes du mariage précoce dans la région de Kaï où 27% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Docteur Serou Diallo, médecin-chef.
En 2015, nous avons recensé deux cas. Une fille de 12 ans avec une grossesse, une fille de 11 ans avec une grossesse. Dans un premier cas, elle est venue déjà en train d'expulser et nous n'avons que constaté. Donc nous avons aidé à l'accouchement. Les deux cas ont tenté des accouchements à domicile. Les deux grossesses se sont soldées par des morts-nés.
Selon les chiffres du ministère de la Santé, 74% des femmes de la région de Kaï sont mariées avant l'âge de 18 ans. Sangare Aïssata Sangare, de la direction régionale de la promotion des femmes de Kaï.
Les gens disent que vraiment, si ils ne marient pas les filles à un âge aussi jeune comme ça, que lorsque la fille va grandir et qu'elle va faire les péchés, qu'ils seront punis par le Tout-Puissant Allah. Le phénomène persiste à nos jours. Ensuite, il y a l'extrême pauvreté, parce que la fille, à un certain âge, elle devient une charge pour la famille. Donc, ils sont obligés de se débarrasser de ses enfants pour les donner à d'autres familles afin d'amoindrir un peu les charges de la famille.
Ces mariages précoces ont des conséquences pour les fillettes, surtout en cas de grossesse. Docteur Serou Diallo, gynécologue.
Les conséquences les plus couramment rencontrées à notre niveau, c'est des morts-nés chez les fœtus. Et les conséquences les plus redoutables chez la maman que nous rencontrons très souvent à notre niveau, c'est des fistules vésico-vaginales qui amènent la société à rejeter la femme parce qu'il y a des fuites d'urine chez ces dames-là. La même société qui a occasionné leur retrait de l'école, qui a occasionné aussi ce mariage précoce, c'est la même société qui rejette ces dames-là.
Et ce n'est pas tout. Diawara Dandia Sidibé, sage-femme.
Ça peut donner à des femmes qui ne vont plus accoucher et puis qui ne vont plus avoir envie des hommes. Ils vont avoir des traumatismes psychologiques.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le chef d'état-major interarmé américain, le général Martin Dempsey, a donné hier quelques conseils aux Nations Unies pour améliorer leurs opérations de maintien de la paix dans le monde et sur le continent africain en particulier. Compte rendu, Henri Francisque.
L'ancien commandant des forces américaines qui ont occupé l'Irak de 2003 à 2011 s'est adressé à des diplomates et militaires des principaux pays, contributeurs de troupes, réunis dans une caserne historique de la garde nationale. Le général Martin Dempsey les a invités à pallier les importantes lacunes en équipement dont souffrent certaines missions en Afrique notamment, et à mettre en place des forces de réaction rapide pour intervenir sur les conflits avant qu'ils ne deviennent ingérables. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-il plaidé. Le déploiement rapide d'unités dans les 30, 60 ou 90 jours, pour une période limitée, peut aider à résoudre les crises naissantes, à prévenir l'extension des conflits et à sauver des vies innocentes. L'ONU déploie dans le monde 16 missions de maintien de la paix avec quelque 126 000 casques bleus et un budget annuel de plus de 7 milliards de dollars. Ce département dirigé par le français Hervé Latsou a vu son importance grandir depuis quelques années, rapporte l'AFP. Mais sa tâche, en particulier en Afrique, Mali, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan ou Soudan du Sud, est de plus en plus complexe et dangereuse. Et il est en butte aux critiques après la révélation d'abus sexuels commis par des casques bleus. Un rapport d'experts publié en juin a proposé une série de réformes pour adapter les missions à une nouvelle donne où les casques bleus sont de plus en plus souvent appelés à gérer des conflits et directement menacés. Pour le général Dempsey, le maintien de la paix doit désormais tenir compte d'un éventail complexe de menaces et d'un environnement imprévisible, d'où la nécessité d'améliorer la formation des militaires qui y participent. Les pays membres doivent faire davantage d'efforts pour mettre en commun leurs ressources, leurs capacités et leurs réflexions, a-t-il estimé. Cette intervention du plus haut gradé américain, la première du genre, témoigne d'un regain d'intérêt des États-Unis pour les casques bleus. Le président Barack Obama participera à un sommet sur ce thème le 28 septembre à New York, en marge de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis financent les missions de paix onusiennes à hauteur de 28%, mais ne leur fournissent que 80 policiers, militaires et conseillers. La plupart des casques bleus viennent du sous-continent indien, Inde, Bangladesh, Pakistan, Népal et d'Afrique, Éthiopie, Ghana, Sénégal et Nigeria.
Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro du Monde. Aujourd'hui, en ce mercredi 29 juillet, Anne Albertson était à la réalisation, John Ellison à la console. Au micro, Jacques Aristide, depuis la capitale américaine, nous vous souhaitons une excellente journée. Rendez-vous demain matin. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.